Jules Verne, L'île à Ellis, première partie, chapitre 10, passage de la ligne. Depuis le 23 juin, le soleil rétrograde vers l'hémisphère méridional. Il est donc indispensable d'abandonner les zones où la mauvaise saison viendra bientôt exercer ses ravages. Puisque l'astre du jour, dans sa course apparente, se dirige vers la ligne équinoxiale, il convient de la franchir à sa suite. Au-delà s'offrent des climats agréables, où, malgré leur dénomination d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, ces mois n'en sont pas moins ceux de la saison chaude. La distance qui sépare l'archipel hawaïen des îles Marquises est de 3000 km environ. Aussi Standard Island, ayant hâte de la couvrir, se met-elle à son maximum de vitesse. La Polynésie proprement dite est comprise dans cette spacieuse portion de mer, délimitée au nord par l'équateur, au sud par le tropique du Capricorne. Il y a là, sur 5 millions de kilomètres carrés, 11 groupes, se composant de 220 îles, soit une surface immergée de 10 000 kilomètres, sur laquelle les îlots se comptent par milliers. Ce sont les sommets de ces montagnes sous-marines, dont la chaîne se prolonge du nord-ouest au sûd-est, jusqu'aux Marquises et à l'île Pitcairn, en projetant des ramifications presque parallèles. Si, par l'imagination, on se figure ce vaste bassin vidé tout à coup, si le diable boiteux, délivré par Cléophas, enleva toutes ces masses liquides, comme il faisait des toitures de Madrid, quelle extraordinaire contrée se développerait au regard. Quelle Suisse, quelle Norvège, quel Tibet pourrait l'égaler en grandeur. De ces monts sous-marins, volcaniques pour la plupart, quelques-uns d'origine madréporique sont formés d'une matière calcaire ou cornée, sécrétée en couches concentriques par les polypes. Ces animalcules rayonnent, d'organisation si simple, douée d'une force de production immense. De ces îles, les plus jeunes n'ont de manteau végétal qu'à leur cime. Les autres, drapées dans leur végétation de la tête aux pieds, sont les plus anciennes, même lorsque leur origine est coloroïde. Il existe donc toute une région montagneuse, enfouie sous les eaux du Pacifique. Standard Island se promène au-dessus de ses sommets, comme ferait un aérostat entre les pointes des Alpes ou de l'Himalaya. Seulement ce n'est pas l'air, c'est l'eau qui la porte. Mais de même qu'il existe de larges déplacements d'ondes atmosphériques à travers l'espace, il se produit des déplacements liquides à la surface de cet océan. Le grand courant va de l'est à l'ouest, et dans les couches inférieures se propagent deux contre-courants de juin à octobre, lorsque le soleil se dirige vers le tropique du Cancer. En outre, aux abords de Tahiti, on observe quatre espèces de flux, dont le plein n'a pas lieu à la même heure, et qui neutralise la marée au point de la rendre presque insensible. Quant au climat dont jouissent ces différents archipels, il est essentiellement variable. Les îles montagneuses arrêtent les nuages, qui déversent leur pluie sur elles. Les îles basses sont plus sèches, parce que les vapeurs fuient devant les brises régnantes. Que la bibliothèque du casino n'eût pas possédé les cartes relatives au Pacifique, cela aurait été au moins singulier. Elle en a une collection complète, et Frascolin, le plus sérieux de la troupe, les consulte souvent. Hivernes, lui, préfère s'abandonner aux surprises de la traversée, à l'admiration que lui cause cette île artificielle, et il ne tient point à surcharger son cerveau de notions géographiques. Pinchina ne songe qu'à prendre les choses par leur côté plaisant ou fantaisiste. Quant à Sébastien Zorn, l'itinéraire lui importe peu, puisqu'il va là où il n'avait jamais eu l'intention d'aller. Frascolin est donc seul à piocher sa Polynésie, étudiant les groupes principaux qui la composent, les îles Basses, les Marquises, les Pomotou, les îles de la Société, les îles de Cook, les îles Tonga, les îles Samoa, les îles Australes, les Wallis, les Fanning, sans parler des îles isolées, Niue, Tokolo, Phoenix, Manaiki, Pâques, Salaï Gomez, etc. Il n'ignore pas que dans la plupart de ces archipels, même ceux qui sont soumis à des protectorats, le gouvernement est toujours entre les mains de chefs puissants, dont l'influence n'est jamais discutée, et que les classes pauvres y sont entièrement soumises aux classes riches. Il sait en outre que ces indigènes professent les religions brahmatiques, mahométanes, protestantes, catholiques, mais que le catholicisme est prépondérant dans les îles dépendant de la France, ce qui est dû à la pompe de son culte. Il sait même que la langue indigène, dont l'alphabet est peu compliqué, puisqu'il ne se compose que de 13 à 17 caractères, est très mélangée d'anglais, et sera finalement absorbé par l'anglo-saxon. Il sait enfin que, d'une façon générale, au point de vue ethnique, la population polynésienne tend à décroître, ce qui est regrettable, car le type kanak, ce mot signifie homme, plus blanc sous l'équateur que dans les groupes éloignés de la ligne équinoxiale, est magnifique. Et combien la Polynésie ne perdra-t-elle pas à son absorption par les races étrangères? Oui, il sait cela. Et bien d'autres choses, qu'il apprend au cours de ses conversations avec le commodore Ethel Simcoe. Et lorsque ses camarades l'interrogent, il n'est pas embarrassé de leur répondre. Aussi Parchina ne l'appelle-t-il plus que le Larousse des zones tropicales. Tels sont les principaux groupes entre lesquels Standard Island doit promener son ambulante population. Elle mérite justement le nom d'île heureuse, car tout ce qui peut assurer le bonheur matériel, et d'une certaine façon le bonheur moral, y est réglementé. Pourquoi faut-il que cet état de choses risque d'être troublé par des rivalités, des jalousies, des désaccords, par ces questions d'influence ou de préséance qui divisent Milliard City en deux camps, comme elle l'est en deux sections, le camp Tancardon et le camp Coverley? Dans tous les cas, pour des artistes, très désintéressés en cette matière, la lutte promet d'être intéressante. Jem Tancardon est Yankee des pieds à la tête, personnel et encombrant, large figure avec la demi-barbe rougeâtre, les cheveux ras, les yeux vifs malgré la soixantaine, l'iris presque jaune comme celui des yeux de chien, la prunelle ardente. Sa taille est haute, son torse est puissant, ses membres sont vigoureux. Il y a en lui du trappeur des prairies, bien que, en fait de trappe, il n'en ait jamais tendu d'autres que celles par lesquelles il précipitait des millions de porcs dans ses dégorgeoirs de Chicago. C'est un homme violent, que sa situation aurait dû rendre plus policé, mais auquel l'éducation première a manqué. Il aime à faire montre de sa fortune, et il a, comme on dit, les poches sonores. Et, paraît-il, il ne les trouve pas assez pleines, puisque lui et quelques autres de son bord ont idée de reprendre les affaires. Mrs. Tancardon est une Américaine quelconque, assez bonne femme, très soumise à son mari, excellente mère, douce à ses enfants, prédestinée à élever une nombreuse progéniture et n'ayant point failli à remplir ses fonctions. Quand on doit partager 2 milliards entre des héritiers directs, pourquoi n'en aurait-on pas une douzaine? Et elle les a tous bien constitués. De toute cette smala, l'attention du quatuor ne devait être attirée que sur le fils aîné, destiné à jouer un certain rôle dans cette histoire. Walter Tancardon, fort élégant de sa personne, d'une intelligence moyenne, de manière et de figure sympathique, tient plus de Madame Tancardon que du chef de famille. Suffisamment instruit, ayant parcouru l'Amérique et l'Europe, voyageant quelquefois mais toujours rappelé par ses habitudes et ses goûts à l'existence attrayante de Standard Island, il est familier avec les exercices de sport, à la tête de toute la jeunesse milliardaise dans les concours de tennis, de polo, de golf et de croquet. Il n'est pas autrement fier de la fortune qu'il aura un jour, et son cœur est bon. Il est vrai, faute de misérables dans l'île, il n'a point l'occasion d'exercer la charité. En somme, il est à désirer que ses frères et sœurs lui ressemblent. Si ceux-là et celles-là ne sont point encore en âge de se marier, lui, qui touche à la trentaine, doit songer au mariage. Y pense-t-il? On le verra bien. Il existe un contraste frappant entre la famille Tancardon, la plus importante de la section bâbordaise, et la famille Coverley, la plus considérable de la section tribordaise. Nat Coverley est d'une nature plus fine que son rival. Il se ressent de l'origine française de ses ancêtres. Sa fortune n'est point sortie des entrailles du sol, sous forme de nappes pétroliques, ni des entrailles fumantes de la race porcine. Non, ce sont les affaires industrielles, ce sont les chemins de fer, c'est la banque qui l'en fait ce qu'il est. Pour lui, il ne songe qu'à jouir en paix de ses richesses, et, il ne s'en cache pas, il s'opposerait à toute tentative de transformer le joyau du Pacifique en une énorme usine ou une immense maison de commerce. Grand, correct, la tête belle, sous ses cheveux grisonnants, il porte toute sa barbe, dont le châtain se mêle de quelques fils argentés. D'un caractère assez froid, de manière distinguée, il occupe le premier rang parmi les notables qui conservent à Milliard City les traditions de la haute société des États-Unis du Sud. Il aime les arts, se connaît en peinture et en musique, parle volontiers la langue française, très en usage parmi les tribordais, se tient au courant de la littérature américaine et européenne, et quand il y a lieu, mélange ses applaudissements de bravo et de brava, alors que les rudes types du Far West et de la Nouvelle-Angleterre se dépensent en hurrah et en hip. Madame Coverley, ayant 10 ans de moins que son mari, vient de doubler sans trop s'en plaindre le cap de la quarantaine. C'est une femme élégante, distinguée, appartenant à ces familles demi-créoles de la Louisiane d'autrefois. Bonne musicienne, bonne pianiste, et il ne faut pas croire qu'un rayeur du XXe siècle ait proscrit le piano de Milliard City. Dans son hôtel de la 15e avenue, le quatuor a maintes occasions de faire de la musique avec elle, et ne peut que la féliciter de ses talents d'artiste. Le ciel n'a point béni l'union Coverley autant qu'il a béni l'union Tankerton. Trois filles sont les seules héritières d'une immense fortune, dont M. Coverley ne se targue pas à l'exemple de son rival. Elles sont fort jolies, et il se trouvera assez de prétendants, dans la noblesse ou la finance des deux mondes, pour demander leurs mains lorsque le moment sera venu de les marier. En Amérique d'ailleurs, ces dates invraisemblables ne sont pas rares. Il y a quelques années, ne citait-on pas cette petite Miss Terry, qui dès l'âge de 2 ans était recherchée pour ses 750 millions. Espérons que cet enfant est marié à son goût, et qu'à cet avantage d'être l'une des plus riches femmes des États-Unis, elle joint celui d'en être l'une des plus heureuses. La fille aînée de M. et Mme Coverley, Diane, ou plutôt Di, comme on l'appelle familièrement, a 20 ans à peine. C'est une très jolie personne, en qui se mélangent les qualités physiques et morales de son père et de sa mère. De beaux yeux bleus, une chevelure magnifique entre le châtain et le blond, une carnation fraîche, comme les pétales de la rosée qui vient de s'épanouir. Une taille élégante et gracieuse, cela explique que Miss Coverley soit remarquée des jeunes gens de Milliard City, lesquels ne laisseront point à des étrangers, sans doute, le soin de conquérir cet inestimable trésor, pour employer des termes d'une justesse mathématique. On a même lieu de penser que M. Coverley ne verrait pas, dans la différence de religion, un obstacle à une union qui lui paraîtrait devoir assurer le bonheur de sa fille. En vérité, il est regrettable que des questions de rivalité sociale séparent les deux familles les plus qualifiées de Standard Island. Walter Tankerdon eût paru tout spécialement créé pour devenir l'époux de Di Coverley. Mais c'est là une combinaison à laquelle il ne faut point songer. Plutôt couper en deux Standard Island et s'en aller, les bâbordais sur une moitié, les tribordais sur l'autre, que de jamais signer un pareil contrat de mariage. À moins que l'amour ne se mêle de l'affaire, dit parfois le surintendant, en clignant de l'œil droit sous son binocle d'or. Mais il ne semble pas que Walter Tankerdon ait quelque penchant pour Di Coverley, et inversement. Ou du moins, si cela est, tous deux observent une réserve qui déjoue les curiosités du monde sélect de Milliard City. L'île à hélice continue à descendre vers l'équateur, en suivant à peu près le 160e méridien. Devant elle se développe cette partie du Pacifique qui offre les plus larges espaces dépourvus d'îles et d'îlots, et dont les profondeurs atteignent jusqu'à 2 lieues. Pendant la journée du 25 juillet, on passe au-dessus du fond de Belknap, un abîme de 6000 mètres, d'où la sonde a pu ramener ses curieux coquillages, ou zoophytes, constitués de manière à supporter impunément la pression de telles masses d'eau, évaluées à 600 atmosphères. 5 jours après, Standard Island s'engage à travers un groupe appartenant à l'Angleterre, bien qu'il soit parfois désigné sous le nom d'îles américaines. Après avoir laissé Palmyra et Sunkarung sur le tribord, elle se rapproche à 5 000 de Fanning, un des nombreux gîtes à guano de ces parages, le plus important de l'archipel. Du reste, ce sont des cimes immergées, plutôt arides que verdoyantes, dont le Royaume-Uni n'a pas tiré grand profit jusqu'alors. Mais il a un pied posé en cet endroit, et l'on sait que le large pied de l'Angleterre laisse généralement des empreintes ineffaçables. Chaque jour, tandis que ses camarades parcourent le parc ou la campagne environnante, Frascolin, très intéressé par les détails de cette curieuse navigation, se rend à la batterie de l'éperon. Il y rencontre souvent avec le Commodore. Ethel Simcoe le renseigne volontiers sur les phénomènes spéciaux à ses mères, et lorsqu'ils offrent quelque intérêt, le second violon ne néglige pas de les communiquer à ses compagnons. Par exemple, ils n'ont pu cacher leur admiration en présence d'un spectacle que la nature leur a gratuitement offert dans la nuit du 30 au 31 juillet. Un immense banc d'assalef, couvrant plusieurs milles carrés, venait d'être signalé dans l'après-midi. Il n'a point encore été donné à la population de rencontrer de telles masses de ces méduses auxquelles certains naturalistes ont octroyé le nom d'Océanie. Ces animaux, d'une vie très rudimentaire, confinent dans leur forme hémisphérique aux produits du règne végétal. Les poissons, si gloutons qu'ils soient, les considèrent plutôt comme des fleurs, car aucun, paraît-il, n'en veut faire sa nourriture. celles des Océanies qui sont particulières à la zone torride du Pacifique, ne se montrent que sous la forme d'ombrelles multicolores, transparentes et bordées de tentacules. Elles ne mesurent pas plus de 2 à 3 cm. Que l'on songe à ce qu'il en faut de milliards pour former des bancs d'une telle étendue. Et lorsque de pareils nombres sont annoncés en présence de Pinchina, ils ne peuvent, répond son Altesse, surprendre ces invraisemblables notables de Standard Island pour qui le milliard est de monnaie courante. À la nuit close, une partie de la population s'est portée vers le gaillard d'avant, c'est-à-dire cette terrasse qui domine la batterie de l'éperon. Les trams ont été envahis, les cars électriques sont chargés de curieux. D'élégantes voitures ont véhiculé les nababs de la ville. Les Coverly et les Tangardon s'y coudoient à distance. Monsieur Jem ne salue pas Monsieur Nat, qui ne salue pas Monsieur Jem. Les familiers sont au complet d'ailleurs. Hivernes et Pinchina ont le plaisir de causer avec Madame Coverly et sa fille, qui leur font toujours le meilleur accueil. Peut-être Walter Tankerton éprouve-t-il quelque dépit de ne pouvoir se mêler à leur entretien. Et peut-être aussi Miss Dye eut-elle accepté de bonne grâce la conversation du jeune homme. Dieu, quel scandale et quelles allusions plus ou moins indiscrètes du Starboard Chronicle ou du New Herald dans leurs articles de mondanité. Lorsque l'obscurité est complète, autant qu'elle peut l'être par ces nuits tropicales semées d'étoiles, il semble que le Pacifique s'éclaire jusque dans ses dernières profondeurs. L'immense nappe est imprégnée de lueurs phosphorescentes, illuminée de reflets rosés ou bleus, non point dessinée comme un trait lumineux à la crête des lames, mais semblable aux effluences qu'émettraient d'innombrables légions de vers luisants. Cette phosphorescence devient si intense qu'il est possible de lire, comme au rayonnement d'une lointaine aurore boréale. On dirait que le Pacifique, après avoir dissous les feux que le soleil lui a versés pendant le jour, les restitue la nuit, en lumineuses effluves. Bientôt, la proue de Standard Island coupe la masse des acalefs, qui se divise en deux branches, le long du littoral métallique. En quelques heures, l'île à hélice est entourée d'une ceinture de ces noctiluques, dont la source photogénique ne s'est pas altérée. On eût dit une auréole, une de ces gloires au milieu desquelles se détachent les saints et les saintes, un de ces nimbes au ton lunaire qui rayonne autour de la tête des Christs. Le phénomène dure jusqu'à la naissance de l'aube, dont les premières colorations finissent par l'éteindre. 6 jours après, le joyau du Pacifique touche au grand cercle imaginaire de notre sphéroïde, qui, dessiné matériellement, eût coupé l'horizon en deux parties égales. De cet endroit, on peut en même temps voir les pôles de la sphère céleste, l'un au nord, allumé par les scintillations de l'étoile polaire, l'autre au sud, décoré comme une poitrine de soldat, de la croix du sud. Il est bon d'ajouter que des divers points de cette ligne équatoriale, les astres paraissent décrire chaque jour des cercles perpendiculaires au plan de l'horizon. Si vous voulez jouir de nuit et de jour parfaitement égaux, c'est sur ces parages, dans les régions des îles ou des continents traversés par l'équateur, qu'il convient d'aller fixer vos pénates. Depuis son départ de l'archipel hawaïen, Standard Island a relevé une distance d'environ 600 km. C'est la seconde fois, depuis sa création, qu'elle passe d'un hémisphère à l'autre, franchissant la ligne équinoxiale, d'abord en descendant vers le sud, puis en remontant vers le nord. À l'occasion de ce passage, c'est fête pour la population milliardaise. Il y aura des jeux publics dans le parc, des cérémonies religieuses au temple et à la cathédrale, des courses de voitures électriques autour de l'île. Sur la plateforme de l'observatoire, on doit tirer un magnifique feu d'artifice, dont les fusées, les serpenteaux, les bombes à couleurs changeantes rivaliseront avec les splendeurs étoilées du firmament. C'est là, vous le devinez, comme une imitation des scènes fantaisistes habituelles aux navires, lorsqu'ils atteignent l'équateur, un pendant au baptême de la ligne. Et de fait, ce jour-là est toujours choisi pour baptiser les enfants nés depuis le départ de Madeleine Bay. Même cérémonie baptismale à l'égard des étrangers, qui n'ont pas encore pénétré dans l'hémisphère austral. « Cela va être notre tour, » dit Frascolin à ses camarades, « et nous allons recevoir le baptême. » « Par exemple ?» réplique Sébastien Zorn en protestant par des gestes d'indignation. « Oui, mon vieux racleur de basse, » répond Pinchina, « on va nous verser des seaux d'eau non bénites sur la tête, nous asseoir sur des planchettes qui basculeront, nous précipiter dans des cuves à surprise, et le bonhomme tropique ne tardera pas à se présenter, suivi de son cortège de bouffons, pour nous barbouiller la figure avec le poteau noir. « S'il croit, » répond Sébastien Zorn, « que je me soumettrai aux farces de cette mascarade, Il le faudra bien, dit Hivernes. Chaque pays a ses usages, et des hôtes doivent obéir. Pas quand ils sont retenus malgré eux, s'écrie l'intraitable chef du quatuor concertant. Qu'il se rassure au sujet de ce carnaval dont s'amusent quelques navires en passant la ligne. Qu'il ne craigne pas l'arrivée du bonhomme tropique. Ses camarades et lui, on ne les aspergera pas d'eau de mer, mais de champagne de meilleure marque. On ne les mystifiera pas non plus en leur montrant l'équateur, préalablement tracé sur l'objectif d'une lunette. Cela peut convenir à des matelots embordés, non aux gens graves de Standard Island. La fête a lieu dans l'après-midi du 5 août. Sauf les douaniers qui ne doivent jamais abandonner leur poste, les employés ont reçu congé. Tout travail est suspendu dans la ville et dans les ports. Les hélices ne fonctionnent plus. Quant aux accumulateurs, ils possèdent un voltage qui doit suffire au service de l'éclairage et des communications électriques. D'ailleurs, Standard Island n'est pas stationnaire. Un courant la conduit vers la ligne de partage des deux hémisphères du globe. Les chants, les prières, s'élèvent dans les églises, au temple comme à Sainte Marie Church, et les orgues y donnent à plein jeu. Joie générale dans le parc, où les exercices de sport s'exécutent avec un entrain remarquable. Les diverses classes s'y associent. Les plus riches gentlemen, Walter Tankerton en tête, font merveille dans les parties de golf et de tennis. Lorsque le soleil sera tombé perpendiculairement sous l'horizon, ne laissant après lui qu'un crépuscule de 45 minutes, les fusées du feu d'artifice prendront leur vol à travers l'espace, et une nuit sans lune se prêtera au déploiement de ces magnificences. Dans la grande salle du casino, le quatuor est baptisé, comme il a été dit, et de la main même de Sirius Bickerstaff. Le gouverneur lui offre la coupe écumante, et le champagne coule à torrents. Les artistes ont la large part du cliquot et du roderer. Sébastien Zorn aurait mauvaise grâce à se plaindre d'un baptême qui ne lui rappelle en rien l'eau salée, dont ses lèvres furent imbibées au premier jour de sa naissance. Aussi les Parisiens répondent-ils à ce témoignage de sympathie par l'exécution des plus belles œuvres de leur répertoire. Le 7e quatuor en fa majeur, opus 59 de Beethoven, le 4e quatuor en mi bémol, opus 10 de Mozart, le 4e quatuor en ré mineur, opus 17 d'Haydn, le 7e quatuor en dante, scherzo, capriccioso et fugue, opus 81 de Mendelssohn. Oui, toutes ces merveilles de la musique concertante, et l'audition est gratuite. On s'écrase aux portes, on s'étouffe dans la salle, il faut bisser, il faut trisser les morceaux, et le gouverneur remet aux exécutants une médaille d'or, cerclés de diamants respectables par le nombre de leurs carats, ayant sur une face les armes de Milliard City et sur l'autre ces mots, en français. Offerte au quatuor concertant par la compagnie, la municipalité et la population de Standard Island. Et si tous ces honneurs ne pénètrent pas jusqu'au fond de l'âme de l'irréconciliable violoncelliste, c'est que décidément il a un déplorable caractère, ainsi que lui répètent ses camarades. « Attendons la fin !» se contente-t-il de répondre, en contorsionnant sa barbe d'une main fébrile. C'est à 10h35 du soir, le calcul a été fait par les astronomes de Standard Island, que l'île à hélice doit couper la ligne équinoxiale. À ce moment précis, un coup de canon sera tiré par l'une des pièces de la batterie de l'éperon. Un fil relie cette batterie à l'appareil électrique disposé au centre du square de l'observatoire. Extraordinaire satisfaction d'amour-propre pour celui des notables auxquels est dévolu l'honneur d'envoyer le courant qui provoque la formidable détonation. Or ce jour-là, deux importants personnages y prétendent. Ce sont, on le devine, James Tankerton et Nat Coverley. De là, extrême embarras de Sirius Bickerstaff. Des pourparlers difficiles ont été préalablement établis entre l'hôtel de ville et les deux sections de la cité. On n'est pas parvenu à s'entendre. Sur l'invitation du gouverneur, Callistus Munbar s'est même entremis. En dépit de son adresse si connue, des ressources de son esprit diplomatique, le surintendant a complètement échoué. James Tankerton ne veut point céder le pas à Nat Coverley, qui refuse de s'effacer devant James Tankerton. On s'attend à un éclat. Il n'a pas tardé à se produire dans toute sa violence, lorsque les deux chefs se sont rencontrés dans le square, l'un en face de l'autre. L'appareil est à 5 pas d'eux. Il n'y a qu'à le toucher du bout du doigt. Au courant de la difficulté, la foule, très soulevée par ces questions de préséance, a envahi le jardin. Après le concert, Sébastien Zorn, Hivernes, Frascolin, Pinchina se sont rendus au square, curieux d'observer les phases de cette rivalité. Étant donné les dispositions des bâbordais et des tribordais, elle ne laisse pas de présenter une gravité exceptionnelle pour l'avenir. Les deux notables s'avancent, sans même se saluer d'une légère inclinaison de tête. « Je pense, monsieur, » dit James Tankardon, « que vous ne me disputerez pas l'honneur. C'est précisément ce que j'attends de vous, monsieur, » répond Nat Coverley. « Je ne souffrirai pas qu'il soit manqué publiquement dans ma personne, ni moi dans la mienne. »« Nous verrons bien, » s'écrie James Tankardon en faisant un pas vers l'appareil. Nat Coverley vient d'en faire un, lui aussi. Les partisans des deux notables commencent à s'en mêler. Des provocations malsonnantes éclatent de part et d'autre dans leur rang. Sans doute, Walter Tankardon est prêt à soutenir les droits de son père, et cependant, lorsqu'il aperçoit Miss Coverley qui se tient un peu à l'écart, il est visiblement embarrassé. Quant au gouverneur, bien que le surintendant soit à ses côtés, prêt à jouer le rôle de tampon, il est désolé de ne pouvoir réunir en un seul bouquet la rosée blanche d'York et la rosée rouge de Lancastre. Et qui sait si cette déplorable compétition n'aura pas des conséquences aussi regrettables qu'elles le furent au XVe siècle pour l'aristocratie anglaise. Cependant, la minute approche où la pointe de Standard Island coupera la ligne équinoxiale. Établie à la précision d'un quart de seconde de temps, le calcul ne comporterait qu'une erreur de 8 mètres. Le signal ne peut tarder à être envoyé par l'observatoire. « J'ai une idée, » murmure Pinchina. « Laquelle ?» répond Iverness. « Je vais flanquer un coup de poing au bouton de l'appareil, et cela va les mettre d'accord. »« Ne fais pas cela, » dit Frascolin, en arrêtant son Altesse d'un bras vigoureux. Bref, on ne sait pas comment l'incident aurait pris fin si une détonation ne se fût produite. Cette détonation ne vient pas de la batterie de l'éperon. C'est un coup de canon du large, qui a été distinctement entendu. La foule reste en suspens. Que peut indiquer cette décharge d'une bouche à feu qui n'appartient pas à l'artillerie de Standard Island? Un télégramme, envoyé de Tribord Harbor, en donne presque aussitôt l'explication. À 2 ou 3 milles, un navire en détresse vient de signaler sa présence et demande du secours. Heureuse et inattendue diversion. On ne songe plus à se disputer devant le bouton électrique, ni à saluer le passage de l'équateur. Il n'est plus de temps d'ailleurs. La ligne a été franchie, et le coup réglementaire est resté dans l'âme de la pièce. Cela vaut mieux en somme, pour l'honneur des familles Tankardon et Coverley. Le public évacue le square, et comme les trams ne fonctionnent plus, il s'est pédestrement et rapidement dirigé vers les jetées de Tribord Harbor. Au reste, après le signal envoyé du large, l'officier du port a pris les mesures relatives au sauvetage. Une des électriques launches, amarrée dans la darse, s'est élancée hors des pierres. Et au moment où la foule arrive, l'embarcation ramène les naufragés recueillis sur leur navire, qui s'est aussitôt englouti dans les abîmes du Pacifique. Ce navire, c'est le Catch Malay, qui a suivi Standard Island depuis son départ de l'archipel des Sandwichs.